Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflits, émission réalisée en partenariat avec l'école de guerre Terre. Chaque mois, une émission en partenariat avec l'école de guerre Terre. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les anciennes émissions sur le site internet de Conflits. Sur ce site internet, vous pouvez également retrouver nos numéros, le dossier actuel qui est consacré à la guerre en Ukraine et à la Pologne et au réarmement stratégique de la Pologne. Et je vous signale également un hors-série spécial bac qui vient de paraître pour tous ceux, lycéens, ou professeurs, qui ont à préparer ou à faire préparer au bac. Ce hors-série est disponible en kiosque, en format papier, et sur notre site internet en format numérique. Vous le savez, Conflits ne vit que par ses lecteurs, donc en vous abonnant, vous permettez à la revue de continuer à se développer et à vous proposer notamment ses émissions podcast en libre accès. Cette semaine, nous allons donc évoquer un sujet assez paradoxal qui est celui de la guerre, mais de la guerre sans soldats, du moins sans soldats humains, de la guerre avec les machines. Depuis tout le temps, depuis l'origine même de l'homme, la guerre se fait avec des hommes, avec des soldats, et on a vu apparaître au fur et à mesure de l'histoire des évolutions technologiques, l'épée, le canon qui ont réduit la place de l'homme, et puis aujourd'hui il est peut-être même possible, avec les évolutions techniques actuelles, de supprimer l'homme de la guerre, de faire une guerre uniquement avec des robots, avec des systèmes qui font que l'homme est placé à l'écart. Alors on va le voir, l'homme ne disparaît jamais complètement, puisque c'est lui qui doit les manier, ce qui pose aussi des problèmes éthiques, des problèmes moraux quant à l'usage de ces armes. C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission avec mes deux invités. Laure de Roussy-Rochegonde, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes docteur en sciences politiques. Vous avez effectué votre doctorat à Sciences Po, un doctorat consacré justement à ces armes technologiques. Vous êtes chercheuse à l'IFRI et puis auditrice civile à l'école de guerre Terre. Et puis deuxième invité, chef de bataillon d'Amiens, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu à notre micro. Donc vous êtes officier stagiaire à l'école de guerre Terre. Et vous allez donc tous les deux nous donner des précisions sur cette manière de conduire la guerre. Alors une guerre avec ce qu'on appelle les armes autonomes. Alors il y a plusieurs sigles qui sont employés ou plusieurs termes. On va peut-être commencer par là, par définir les termes et les sigles. Après on pourra aller plus loin sur la réflexion sur ces armes. Mais pour nos auditeurs qui peuvent voir passer des noms un peu différents dans les médias ou dans la presse, on parle d'armes autonomes, on parle de SALA également. Donc quels sont les différents mots employés, quelles sont les différences également entre chacun?
Alors en fait, ce qui est important de dire d'abord, c'est qu'il y a effectivement un débat terminologique très important. C'est le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles qui dit que celui qui a le pouvoir, ce n'est pas celui qui dit les mots, c'est celui qui dit ce que les mots veulent dire. Et là, il y a vraiment une forme de compétition entre différents acteurs pour dire ce que veulent dire l'autonomie et les SALA, les systèmes d'armes létaux autonomes. La définition plus ou moins communément admise, qui est la définition de travail au sein des Nations Unies, c'est un système qui, une fois activé, peut identifier et engager une cible sans autre intervention humaine. Donc, on voit que c'est quand même un degré assez élevé d'autonomie. Pour autant, il y a des niveaux d'autonomie qui sont moindres, avec un certain nombre de fonctionnalités autonomes. Il y a une réflexion qui a été menée, notamment par Thierry Berthier, qui est au CREC, pour savoir quels étaient précisément les niveaux d'autonomie. Lui en distingue 7. Et en fait, ça va de l'hétéronomie à l'autonomie entière, en passant par un degré plus ou moins fort d'automatisation. Ce qu'on dit souvent, c'est que c'est un continuum, c'est pas un bouton on-off entre hétéronome et autonome, mais un continuum qui passe par un certain nombre de paliers et qui peut aller jusqu'à l'autonomie entière, même si c'est finalement une vision très prospective et qui, en l'état actuel du développement technologique, n'existe pas.
Donc c'est ce qui va distinguer par exemple de l'arbalète à son époque ou de boulets de canon qui tirent et font des dégâts, alors que là on a des armes qui vont pouvoir trouver l'adversaire, l'ennemi à abattre, soit des personnes, militaires ou civiles, soit des cibles, bâtiments ou autres.
C'est ça, et aussi décider d'engager le tir ou non. Et c'est là qu'on parle d'autonomie, c'est effectivement quand ce type de système déployé identifie une cible et là, en fonction d'un certain nombre de critères préprogrammés, peut décider de recourir à la force ou de ne pas y recourir selon sa programmation.
Donc il fait vraiment le travail que faisait ou que fait le soldat de manière habituelle. C'est-à-dire, pas simplement effectivement de tirer ou d'actionner le feu, mais même de choisir le moment ou non ou de l'actionner, ce qui évidemment change beaucoup de choses. Et alors on pense peut-être de prime abord au drone qui est un modèle de parmi ces systèmes. Il y en a d'autres aussi, je suppose, des missiles peut-être, d'autres manières de faire également.
Alors aujourd'hui, les SALA concernent essentiellement les drones, mais on voit apparaître de plus en plus sur le champ de bataille de robots ou en tout cas de systèmes robotisés, donc terrestres, qui pourraient intégrer exactement les mêmes sources technologiques. On pense en l'occurrence à l'intelligence artificielle. Une vraie rupture technologique qui est en cours. On ne connaît pas encore tout ce qu'elle pourrait apporter, mais effectivement, elle serait capable de déterminer quelle cible il faut engager, et cela remplacerait en fait la conscience professionnelle que peut avoir le soldat. Et on le voit beaucoup en mission. En fait, la décision d'ouvrir le feu n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Chaque soldat qui tient un armement se pose toujours d'immenses questions. Est-ce que je dois ouvrir le feu? Est-ce que l'environnement le permet? Ou est-ce que je risque d'avoir des dégâts collatéraux? Est-ce que l'objectif que je vise est celui que je veux détruire? Donc toutes ces questions-là, est-ce qu'on les délègue à un système avec des algorithmes? Est-ce qu'il est capable de prendre en compte l'ensemble des questions qui sont absolument nécessaires dans l'art de la guerre? C'est toute la question que pose les SALA en tant que système d'armes létaux doté d'une autonomie totale.
Parce qu'effectivement, il va être programmé, donc il va falloir faire un programme informatique qui va dire dans tel cas on tire, dans tel cas on ne tire pas. Donc ça suppose quand même une action humaine, une préfiguration qui va, mais on sait bien qu'après dans la guerre ou dans le cours de l'opération, entre ce qui était programmé et ce qui est effectif, il peut quand même y avoir une marge assez importante.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on regarde la littérature sur le refus de tuer, il y a de nombreuses études qui ont été menées sur ce sujet qui parlent de la manière dont parfois les soldats désobéissent pour des raisons qui sont extrêmement diverses, mais qui souvent tiennent à une forme d'empathie qui peut se développer pour l'adversaire. Par exemple, Michael Walzer parle du soldat nu, c'est-à-dire le fait que un soldat, lorsqu'il voit un adversaire dans un contexte tout à fait trivial, par exemple alors qu'il est en train de prendre son bain, alors qu'il est en train de fumer une cigarette, de téléphoner à sa femme, il ne peut plus décider de recourir à la force parce qu'il reconnaît l'humanité de l'ennemi. Or, avec ce type de préprogrammation informatique, c'est très difficile, c'est impossible plus précisément, parce que ce type de système n'est que pure application de la règle. Donc ça laisse plus de place à cette capacité d'inventivité et de compassion qu'on retrouve évidemment chez les soldats déployés en opération.
Est-ce que ça changerait aussi la question de la hiérarchie, la prise de décision, puisque notamment dans l'armée de terre, il y a le rôle du lieutenant, du capitaine, dans la prise de décision, notamment d'actionner ou non le feu, si c'est la machine qui le fait, qui était programmée par un ingénieur informatique auparavant, finalement, à quoi vont-ils servir? À quoi est-ce qu'on a encore besoin du chef dans la décision d'actionner le feu?
Alors effectivement, c'est un des obstacles identifiés par les armées. Lorsqu'il y a une ouverture du feu, il y a bien plusieurs responsables. Il y a l'opérateur ou celui qui tient, on va prendre l'exemple de celui qui tient le fusil, mais il y a aussi le chef qui donne l'ordre. Et dans le cas des SALA, on pourrait imaginer que l'ingénieur serait aussi, ou en tout cas l'industriel qui produit le SALA pourrait être mis en cause. Et pour le coup, l'appréciation de situation du chef disparaît puisque le SALA va, lui, prendre en compte son environnement sans forcément prendre en compte toutes les ambiguïtés morales qui pourraient exister. Le robot, le drone, le système autonome est dénué de conscience morale, là où à la fois la chaîne hiérarchique, mais aussi l'être humain qui actionne le système, eux en disposent. Donc il est absolument indispensable pour les armées d'inclure dans la boucle décisionnelle de tuer, puisque il faut bien dire les choses, hein, ces systèmes d'armes auront vocation à potentiellement tuer quelqu'un. Il est absolument crucial de maintenir à la fois la vision du commandement à travers une appréciation de situation et éventuellement la décision d'un opérateur en parallèle. Ça permettra d'avoir deux fusibles qui éviteront des dégâts collatéraux ou des erreurs d'appréciation de situation.
Alors on peut aussi dire finalement que ça peut être aussi une manière de se déresponsabiliser en disant bah, c'est le robot qui a tué, c'est pas moi, et donc je ne suis pas responsable de bavures éventuelles ou de crimes ou même d'opérations puisque finalement c'était le programme informatique qui a réagi, et donc ça permet aussi de responsabiliser, ce qui peut être déresponsabiliser, ce qui peut être aussi un peu confortable dans le fait de ne pas pouvoir être responsable directement d'opérations ou d'éléments qui pourraient mal tourner.
Alors là-dessus, justement, il y a eu plusieurs études développées par les armées, en particulier le comité d'éthique de la défense s'est penché sur la question et a rendu un rapport le 29 avril 2021. Le comité d'éthique de la défense est un comité d'experts de plusieurs domaines qui se réunissent pour donner un avis au profit du ministre des armées. Ce sont des experts indépendants, civils et militaires, de toutes les professions qui existent. Ça peut être des financiers, des psychologues, voilà. Et ce comité d'éthique évoquait effectivement la dilution de la responsabilité et aussi une notion assez importante en France. Le droit de tuer est clairement encadré par la Constitution, par le Code de la Défense. Le pouvoir civil accorde certains droits aux militaires, mais le militaire reste responsable aux yeux du politique en particulier. Et cette dilution des responsabilités irait directement à l'encontre de nos lois françaises si on accordait une totale autonomie au système d'armes.
Ce que l'on voit aussi, c'est que depuis le début de cette émission, alors on a présenté brièvement les armes, on va y revenir, mais on parle d'éthique et de morale, ce qui veut dire aussi qu'on a le souci de se placer dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on veut effectivement définir un cadre moral et ne pas faire n'importe quoi. On va dire que ça, c'est quelque chose qui est important en France, en Europe, dans le monde occidental. On peut être aussi confronté à des adversaires pour qui les questions éthiques et moraux ne sont vraiment pas des sujets, et ce qui peut créer une disparité par rapport à un pays qui ferait usage de ses armes sans aucun problème moral, et donc qui pourrait mettre aussi les armées françaises en situation d'infériorité. Comment est-ce que dans ces cas-là, on pourrait réagir par rapport à ça ? C'est-à-dire nous vouloir effectivement limiter pour respecter un cadre éthique face à un adversaire qui n'a aucune morale, qui n'a pas la même morale que nous, et qui lui n'aurait aucun scrupule à faire usage de ses armes létales dans un cadre absolument non moral.
Je pense qu'effectivement, c'est une question morale, mais qui va presque encore plus loin que ça. En fait, ça pose la question du contrat moral dans la guerre et du droit de tuer, effectivement, puisque actuellement, dans l'architecture normative qui entoure la guerre, et ça, c'est valable pas uniquement dans les régimes démocratiques ou dans les pays occidentaux, mais de manière générale, c'est l'idée qu'a le droit de tuer seul celui qui risque de perdre sa vie. Et c'est ce qui fait dire à Camus, par exemple, dans L'Homme révolté, une vie est alors payée pour une vie, et de cet holocauste surgit la promesse d'une valeur. Et en fait, quand on est dans une situation où une des deux parties n'est pas exposée à ce risque, l'édifice normatif est quand même considérablement remis en cause. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, en fait, même si, effectivement, les limites éthiques que se posent un certain nombre de compétiteurs de la France ne sont pas tout à fait similaires aux nôtres, d'abord, il y a des raisonnements, des questionnements éthiques qui sont menés, par exemple, par la Russie, par exemple, par la Chine. Par ailleurs, je pense que cette question, elle est valable pas uniquement pour la problématique des systèmes d'armes autonomes, mais plus généralement, la question c'est est-ce qu'on est prêt à nous se lier les mains sur un certain nombre de choses, mais on pourrait parler aussi de la propension à faire des dommages collatéraux, de la torture, de tout un tas d'actions inéthiques que la France s'interdit, et c'est précisément ce qui nous différencie aussi de ceux que nous combattons. Donc le fait de transiger sur ces grands principes moraux amoindrirait ce que nous sommes du point de vue de notre identité, de l'éthos de la France en tant que puissance militaire.
Alors, au-delà des questions morales, il y a aussi évidemment un intérêt que l'on voit à ces systèmes d'armes, c'est que ça économise des vies humaines. C'est aussi pour ça qu'on les développe. C'est-à-dire que le robot, il peut être cassé, mais l'arme peut être cassée, mais elle ne va pas mourir. Donc, on comprend aussi l'intérêt pour les armées, notamment françaises, de développer ce genre de choses. C'est l'économie de la vie. On le voit d'ailleurs, le rapport à la vie humaine a quand même beaucoup changé au cours des dernières décennies. Et qu'aujourd'hui, quand on engage les armées, on veut limiter au maximum le nombre de morts. Et donc, ces appareils, ces outils permettraient de tendre vers mort zéro, quasiment.
Alors effectivement, c'est très intéressant de pouvoir protéger la vie de nos soldats. C'est un des enjeux le plus important dans le développement des SALA. En particulier, même s'il peut y avoir des difficultés éthiques, de ne pas subir un déclassement vis-à-vis de nos compétiteurs. Alors, les armées ont trouvé une solution, c'est-à-dire que plutôt que parler de SALA en interne dans les armées, on va évoquer de système d'armes létaux intégrant de l'autonomie. Donc, on garde les prérogatives du chef et les fusibles de conscience morale qui existent, mais on avance sur les sujets des SALIA, du coup, en profitant de ces armes-là, qui permettent donc plusieurs choses. Non seulement la protection de nos soldats, qui ne sont plus exposés comme ils peuvent l'être sur le champ de bataille, mais ça préserve aussi une rapidité dans l'action, puisque plutôt qu'avoir à déployer une force humaine à tel ou tel endroit où on a détecté un objectif, là on peut très rapidement traiter la cible, tout en se prémunissant donc sur les risques d'altération du discernement et en gardant à l'esprit que la distanciation entre les destructions et la prise de décision reste quand même un point qui pourrait être délicat dans l'utilisation de ces armes.
On parle beaucoup aujourd'hui d'autonomie stratégique et d'industrie de la défense. On a des industriels français qui produisent ce type d'armes. Qu'en est-il en termes de du panel de la production, que ce soit les drones, les robots, des missiles autonomes?
Ils s'y sont mis. Alors sans parler de SALA très précisément, parce qu'encore une fois les SALA n'existent pas encore et c'est un horizon technologique mais qui n'est pas atteint à l'heure où nous parlons, pour autant les usual suspects de la BITD investissent évidemment massivement dans les techniques d'intelligence artificielle, dans la robotique, et donc on voit arriver un certain nombre de systèmes qui pourrait tendre vers davantage d'autonomie. D'ailleurs, le théâtre ukrainien est une sorte de laboratoire à ciel ouvert pour expérimenter des technologies très innovantes, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Des industriels français sont impliqués dans ces expérimentations.
Effectivement, pour compléter tes propos, Laure, il y a deux appels à projets qui ont été lancés par l'Agence Innovation Défense. Donc l'ARINAE et le projet Colibri, qui vise à poursuivre le développement de SALIA, ou en tout cas d'avancer dans ce sujet-là, sur ces sujets-là pour doter rapidement les forces de SALIA, et en tout cas permettre d'être efficace sur le terrain vis-à-vis effectivement de compétiteurs et éventuellement de permettre l'exportation de ces armes au profit donc de nos alliés et partenaires.
Alors, on évoquait la guerre en Ukraine. On a vu effectivement que un des soucis de l'Ukraine, c'était le rapport démographique, puisque la Russie est beaucoup plus nombreuse en hommes, et que les Ukrainiens ont fait un usage des drones majeur. D'ailleurs, ça a permis de neutraliser la flotte russe en mer Noire, mais aussi sur le front. Ça a été, avec la guerre aussi au Karabakh, Azerbaïdjan, Arménie, peut-être une des guerres où ces systèmes autonomes, les taux autonomes, ont été parmi les plus employés. En tout cas, ça a changé quand même pas mal de choses dans la manière de faire la guerre et de la penser et de la préparer aussi pour le futur.
Oui, et d'ailleurs, ce qui est important de noter, c'est que on observe très précisément sur le front ukrainien ce à quoi sert l'autonomie, c'est-à-dire qu'en 2014, des drones avaient déjà été utilisés, mais le problème, c'est que les capacités de guerre électronique russe faisaient que la liaison entre l'opérateur et les systèmes était brouillée, et donc les drones tombaient. Et l'autonomie, ça sert exactement à ça, ça sert à maintenir un drone en vol, voire de lui permettre de continuer sa mission alors que la liaison avec l'opérateur est coupée. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que il y a une forme d'héroïsation de ces drones. Il y a eu par exemple une chanson qui est devenue très très populaire sur le drone Bayraktar qui est le drone de prédilection des Ukrainiens. Et donc ça pose la question de ce qui constitue l'héroïsme dès lors que ce sont finalement des systèmes qui emploient la force et qui peuvent être exaltés pour leur grande performance sur le champ de bataille.
Quelle est l'autonomie de ces drones? Enfin, il y a différents types de drones, mais est-ce que c'est ça se compte en heures avant qu'ils reviennent à la base?
Alors en fait, ce qui est compliqué avec l'autonomie, c'est que ça peut concerner plusieurs aspects. Il y a effectivement la navigation, donc là, ça peut être plusieurs heures, ça dépend en réalité de la programmation. Et l'autonomie qui pose plus problème, comme on le disait, c'est quand il s'agit d'identifier et d'engager des cibles. Et là, ce qui est très difficile de savoir, c'est que les industriels tendent à soit exagérer, soit minimiser les capacités de leurs drones en fonction de par qui ils sont scrutés. Donc si c'est de potentiels acheteurs, ils ont tendance à dire que c'est presque 100% autonome et c'est capable de tout faire tout seul, etc. Dès que, par exemple, l'ONU commence à jeter un œil à la manière dont c'est employé, ils enlèvent toutes les occurrences à l'autonomie et ça devient des systèmes téléopérés très classiques qui n'ont rien de révolutionnaire. Donc c'est difficile de faire la part des choses entre les arguments commerciaux, quelque part, et les capacités réelles.
On a évoqué les drones en termes de, si on reste sur la Terre, de robots. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en matière de systèmes autonomes qui ont cette capacité létale ou d'intervention?
Alors, ce que l'armée de terre cherche à développer, c'est de plusieurs capacités de protection autour d'un char comme celui qui est en cours de développement avec nos alliés allemands, le MGCS, donc le futur remplaçant du Leclerc. L'idée est de confier potentiellement à des ailiers la protection rapprochée d'un char. Donc un char, ça représente un certain investissement financier. Et si sa protection rapprochée est assurée par des petits robots ou des petits drones tout autour, on assure une protection accrue tout en centralisant un peu la décision dans le char, dans le MGCS. Donc ça devient un complexe de capacité de feu très intéressant avec une protection accrue et une capacité aussi de détection d'ennemis décuplée. Donc on gagne énormément en efficacité tout en conservant une grande protection et on garde un homme mieux protégé au centre du système sur le champ de bataille.
Et on a également des robots qui pourraient interférer, peut-être prendre un char qui pourrait être complètement autonome, qui n'aurait même plus besoin d'équipage à l'intérieur?
Aujourd'hui, non. Mais peut-être que dans quelques décennies, la guerre pourrait se faire ainsi. Ce n'est pas ce que recherche l'armée de terre, parce que déléguer toutes les destructions à la machine, c'est rechercher exclusivement la destruction. On perd un sens moral, comme on l'a déjà évoqué. Or, comme l'écrivait Sun Tzu il y a quelques millénaires, la victoire repose avant tout sur une domination morale de l'ennemi, pas sur une recherche de destruction débridée. Je pense que ce sujet est particulièrement intéressant à étudier dans les conflits d'aujourd'hui. Quand on voit toutes les destructions, les pertes civiles, il faut bien garder à l'esprit que la victoire est avant tout morale et que ce ne sont pas ces destructions qui permettront de gagner la guerre, d'assurer la victoire.
Et si je peux juste ajouter un point là-dessus, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que quand on parle de la bataille pour les cœurs et les esprits, le fait de recourir à des drones ou aujourd'hui des systèmes encore plus autonomes que cela est très mal vécu par les populations qui sont exposées à ces systèmes, les populations civiles sur les théâtres d'opération. Il y a beaucoup de ressentiment qui naît du recours à ces technologies. On l'a observé notamment en Afghanistan lorsque les Américains les ont assez massivement utilisés dans leur guerre contre la terreur. Actuellement, alors là il ne s'agit pas de systèmes d'armes létaux autonomes telles que la définition de travail les explicite, mais à Gaza, Tsahal a recours assez massivement à des techniques d'intelligence artificielle pour faire du ciblage, pour identifier des membres du Hamas. Cela donne lieu donc à des générations de cibles beaucoup plus importantes, et donc partant forcément aussi des dommages collatéraux beaucoup plus importants. Et on voit bien que la manière dont la population gazaoui appréhende ce recours à la force ne va pas du tout dans le sens d'un attrait pour la politique israélienne, au contraire. Et Pape a sorti un article il n'y a pas très longtemps sur ce sujet où justement il montrait que le recours à l'intelligence artificielle ici va dans le sens plutôt de bombardements massifs qui sont extrêmement opposés au fait d'emporter les cœurs et les esprits. Et on l'a vu à plein de reprises dans l'histoire de la guerre.
Oui, c'est ça rejoint ce que vous disiez au début, c'est-à-dire que avec un soldat, même ennemi, on peut négocier. Et évidemment, avec un système autonome, on négocie pas. Il nous tue et il y a pas. Donc le civil est complètement désœuvré et il a face à lui un adversaire maximal. Et puis, ce que vous dites également sur la force morale paraît fondamental, c'est qu'on a parfois l'impression que la guerre se gagne par la puissance du feu. Alors ça y contribue évidemment, mais pas uniquement. La dimension morale, culturelle joue aussi beaucoup, voire même parfois est essentielle pour gagner une guerre.
Oui, il s'agit de convaincre l'ennemi de déposer les armes, bien plus que de le détruire physiquement. De fait, la puissance de feu, En limitant les capacités de l'adversaire, y participe, mais il s'agit avant tout d'une victoire plutôt psychologique. Et lorsque les combats ont lieu dans des régions où la population est massivement présente, on peut imaginer que la population peut faire pression dans un sens ou dans l'autre, et que si elle subit des pertes considérables, elle n'ira pas forcément du côté de celui qui a la plus grande force destructrice.
Alors comment est-ce que on intègre ces nouveaux modes de combat dans la formation des officiers, puisque vous êtes à l'école de guerre terre, donc vous avez une année et plus une autre année l'année prochaine à l'école de guerre dans votre formation. Comment s'y intégrer ces nouveautés justement dans la manière d'appréhender la tactique, la manière d'évolution aussi, la pratique du combat?
Alors, l'enjeu est d'accélérer la prise de décision sur une ouverture de feu. L'intelligence artificielle peut présélectionner des cibles et les proposer plus rapidement à chaîne de commandement pour traiter une cible. Donc, quand une cible est décelée, elle va disparaître bientôt. Si une intelligence artificielle est capable d'associer un effecteur, donc un système d'armes, quel qu'il soit, pour traiter cette cible, et que nous ne disposons peut-être que de quelques minutes, le fait qu'elle ait présélectionné un effecteur et qu'il n'y ait plus que la décision à valider est très intéressante. Néanmoins, pour le chef ou pour celui qui va prendre la décision, ça demande quand même un vrai entraînement, puisqu'il va disposer de quelques dizaines de secondes pour décider, et sa décision va peut-être tuer des personnes. Et c'est ce qui est parfaitement mis en évidence dans le programme Lavender qu'on a déjà évoqué de l'armée israélienne, c'est-à-dire que la décision repose sur un officier dans un état-major qui a quelques dizaines de secondes pour valider l'option proposée par l'intelligence artificielle. Donc ça va demander quand même un vrai entraînement. Nous ne disposons pas, à ma connaissance aujourd'hui, d'un tel logiciel dans les armées françaises, mais ça va demander un vrai discernement. Il y a une charge cognitive monstrueuse sur la personne qui va valider ou non l'action. Et on en saura plus, je pense, dans les prochains mois sur justement ce programme Lavender, mais on peut s'interroger sur le nombre de victimes civiles liées à des frappes optimisées par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il ne faut pas fixer des limites très claires via des limites algorithmiques, mais aussi des limites humaines sur le degré de certitude de l'environnement pour s'assurer qu'en fait, il n'y aura pas de dégâts collatéraux.
Oui, puis ça rejoint ce qu'on disait au début de cette émission, à savoir que celui qui va prendre la décision ne voit pas les résultats immédiats de la décision qu'il a prise, c'est-à-dire qu'il ne voit pas les dégâts que ça peut causer, les succès ou les échecs. Donc pour prendre une décision ensuite, il lui manque quand même un élément très important qui est le résultat obtenu.
Effectivement, et les systèmes d'armes ne permettent pas forcément d'avoir une bonne analyse de l'efficacité de la frappe réalisée. Et pourtant, cet élément-là est crucial pour une bonne prise de décision dans les minutes qui suivent sur un autre environnement. J'y ajouterais le fait que le droit de la guerre est quand même particulièrement cadré. Il y a le droit international humanitaire qui encadre particulièrement le cadre de l'emploi des armes et qu'il y a quand même un principe de proportionnalité. On ne peut pas réaliser une frappe sur un objectif si les risques qu'encourt la population autour, que ce soit via par exemple une perte de ressources énergétiques qui alimenterait un hôpital ou des choses comme ça, ou simplement une frappe à proximité d'un camp de réfugiés, ne sont pas autorisées par le droit international. Et se prémunir contre les responsabilités qu'encourt l'opérateur sont un vrai sujet.
Quelles sont les évolutions qu'on peut imaginer dans les années qui viennent, sans faire de science-fiction ni se projeter à 10 ou 15 ans parce que ça évolue beaucoup, mais on va dire les principales évolutions qu'on pourrait avoir d'ici 2-3 ans dans ces armes, dans leur usage?
Si on s'appuie sur le précédent des drones, en fait, ce qu'on a observé, c'est que finalement, il y avait des réticences d'ordre moral au départ au fait d'employer des drones, d'armer des drones, d'utiliser des drones pour tuer des individus. Et au fur et à mesure, il y a une sorte d'acculturation de la part des armées et même de la population civile, du grand public d'une certaine manière, et on a vu une démocratisation de ces systèmes jusqu'à aujourd'hui la guerre en Ukraine où ils sont vraiment au cœur du champ de bataille. Et je pense que dans le cas de l'autonomie, on a, comme on l'a évoqué, deux mouvements qui vont dans le même sens. D'une part, des avancées technologiques qui sont fulgurantes, on le voit bien avec l'intelligence artificielle générative par exemple, qui progresse, tous les trimestres, il y a vraiment un perfectionnement manifeste. Et dans le même temps, on a une forme de tension sur les armées occidentales qui est liée à une moindre tolérance aux pertes humaines, qui pourrait aller dans le sens d'une multiplication des engagements extérieurs et qui donc rendrait d'autant plus nécessaire le recours à ce type de système. Donc on peut présumer une démocratisation là aussi de l'autonomie dans les systèmes d'armes des armées du monde entier.
Est-ce que l'on voit finalement ce qu'il faut, il faut du temps pour intégrer une arme, ce qui est d'ailleurs tout à fait compréhensible aussi, c'est à la fois l'utiliser d'un point de vue tactique, mais aussi la pensée d'un point de vue cognitif, comment on l'intègre, comment on va en faire usage, même d'un point de vue moral.
Alors, ce qu'on voit déjà sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos systèmes d'armes, c'est que la transparence qui est déjà rendue possible par les images satellitaires, les images des drones, est exploitée maintenant par l'intelligence artificielle et on décèle très rapidement les objectifs ennemis, les objectifs qu'on pourrait trouver chez l'ennemi. Donc un rassemblement de forces armées est très vite décelé, etc. De fait, les combattants deviennent beaucoup plus vulnérables sur le champ de bataille. Pour s'en prémunir, il faudra être de plus en plus discret, ne pas être visible sur des images satellites est de plus en plus compliqué, mais en plus, si ces images satellites des images aériennes qui ne sont pas forcément du domaine du visible ou quoi que ce soit, on a un rayonnement électromagnétique, etc. Si tout ça est analysé par l'intelligence artificielle, l'ennemi saura très vite où nous sommes, il pourra nous frapper directement sur nos postes de commandement. C'est déjà un des enseignements de la guerre en Ukraine. Donc une grosse vulnérabilité, et pour s'en prémunir, il sera assez utopique de diminuer notre silhouette visuelle. Il faudra donc chercher à créer des ambiguïtés, il ne faudrait pas que ces ambiguïtés pénalisent la population civile en cherchant une imbrication, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments qui vont changer sans doute dans les prochaines années sur la manière de mener les combats, sur la manière de se protéger, et qui pourraient avoir des répercussions sur la population et sur la façon de réaliser les combats.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus au micro de Conflit pour nous parler de ces salas, enfin ce qu'on appelle salas, mais on voit qu'il y a bien de nombreuses catégories, et puis de nous avoir montré ces enjeux éthiques et moraux dans l'usage de ces armes et cette guerre qui, tout en conservant sa même nature, change dans la façon d'être pratiquée et dans les armes qui sont utilisées. Merci à vous pour votre fidélité à nos émissions. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Géopolitique.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.